Secure your place.
Bonsoir, good evening, kia ora, vous êtes bien sûr la radio des Amuse-Gueule, la radio des Français, des francophones, des francophiles à Auckland. Et ce soir, ici en studio, nous avons Alix à la technique.
Bonsoir.
Et moi, Séverine, à l'animation, puisque... Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? J'aurais pas dû être là, moi.
Non, c'est vrai, on est en improvisation un petit peu, mais on avait Sarah qui, malheureusement, s'est bloqué le dos. Donc, Sarah, si tu nous écoutes, on pense fort à toi. Oui. On te fait un gros bisou. Et Sarah voulait rendre hommage à Jean-Jacques Goldman ce soir. Donc, on va peut-être commencer par écouter une musique de Jean-Jacques Goldman, mais reprise par les Audio Idols. Donc je nous ai pris Envole-moi, qui est un...
Ça rappelle des souvenirs.
Oui, c'est en plein dans les années 80, hein,
il me
semble.
Ah oui, c'est les années 80, c'est ouais. Goldman, c'est ça.
Bon, on va écouter ça alors.
C'est pour toi, Sarah. C'est parti.
C'est censé être parti, mais ça part pas.
Ah bon?
Ah, attends, voilà.
Oh, j'entends, voilà, c'est bien.
Les voix se taisent et tout devient aveuglé et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Rébellion, règles du jeu fixées, mêlées des sons pipés. L'hiver est glace, l'été est feu. Ici, il n'y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livres, je franchirai tous ces murs.
Oh,
la date. Mais c'est pas mal, ça a toujours du punch.
Hein.
Oui. Je voulais faire une annonce à tous nos auditeurs pour rappeler que au mois de juillet, quand on a encore bien froid à Auckland, il y a quelque chose de sympa qui se passe quand même pendant une dizaine de jours, du 18 juillet au 4 août, c'est le Festival du film international à Auckland. Le catalogue, est déjà sorti. Vous pouvez savoir quel film réserver, les dates, les horaires. Et je l'ai depuis un moment. J'ai regardé, les places sont beaucoup moins chères que ce que je pensais, parce que c'est $12.50 en moyenne. Et pour les adultes, les enfants et les étudiants, c'est encore moins. Et si vous prenez un nombre, genre plus de 10 tickets, là aussi vous avez un prix, je crois que ça va être $10 par... vous pouvez prendre un carnet, donc $10 par film.
Et un ticket nous donne accès à n'importe quel film, ou c'est par film qu'on prend un ticket ?
Non, tu dois réserver ton film et la séance, parce qu'il y a plusieurs séances sur chaque film, donc il faut choisir. Il y a plein d'endroits où on peut les voir. Sur Queen Street, donc il y a au IMAX, au Civic, Academy, il y a plusieurs endroits encore, il y a le Bridgeway, faut regarder où on veut aller, quoi. Il y a, je crois, le Rialto sur à Newmarket. Il y a plusieurs endroits comme ça qui font partie du Festival du film. Et oui, et par rapport à un film, tu me disais que toi, tu es allé au cinéma aujourd'hui, ça t'a coûté ?
Bah oui, et ça coûte $19 l'entrée.
En temps normal.
Ouais,
voilà.
En temps normal.
Donc finalement, le Festival du film qui vous permettra de voir des films qu'on ne voit pas du tout à Auckland d'habitude, et donc une sélection internationale de très très bons... de très très bons, films, vous allez voir, de très beaux films, et qui coûtent pas trop cher. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de le rappeler. On a aussi beaucoup de films français qui viennent grâce à ce festival. Donc je sais que les francophones y vont régulièrement. On en a 9, j'ai compté. Certains sont passés par le festival de Cannes, ont eu des palmes. Je connais pas du tout les films qui passent. Il y en a deux avec Juliette Binoche. Comme moi, j'aime beaucoup cette actrice, je vais me pencher un peu plus près. Je vais un peu lire les résumés et ce qu'on en dit. Et c'est tous des films récents. Donc voilà, il y a des sélections pour les enfants. Il y a des films qui viennent de partout. Et l'Islande, l'Inde, l'Italie, le Maroc. Il y a des comédies musicales, il y a des films du Japon, du monde entier en fait, vraiment.
Mais c'est fou, est-ce que tu penses que la France est surreprésentée? Parce que tu disais qu'il y a 9 films français, il y a combien de films qui viennent dans ce festival finalement?
Alors j'ai pas compté, il y en a pas mal. Hein.
Oui, parce que je te vois feuilleter ton magazine, il y a beaucoup de pages. Hein.
C'est assez copieux. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que le cinéma français n'est pas surreprésenté, mais on produit beaucoup de films de qualité en France, et le Festival du film français est reconnu internationalement.
D'accord.
Et les gens apprécient. Donc, ils s'exportent bien et ils gagnent des prix dans les festivals à Berlin et ailleurs. Donc, souvent, on a de la chance, voilà, d'avoir 8 films ou 9 films, alors que d'autres nations, d'autres pays, on verra peut-être un ou deux.
Mais c'est fou, parce que c'est vrai que on penserait pas forcément à la France comme pays producteur de cinéma, finalement. Enfin,
je pense que le fait qu'on ait eu Jacques Lang, ministre de la... Je sais qu'il a fait pas mal de choses quand même. Il a un gros ego, mais il a fait du bien à l'exception culturelle française, entre guillemets, parce qu'il a inscrit dans les lois un certain quota de films produits en France, mais produits en français, avec des acteurs français, enfin des films français, et qui doivent passer sur les chaînes nationales. Donc, ça a permis à continuer à ce cinéma à vivre, donc à continuer à produire. Et je ne sais pas maintenant quelles sont les lois, mais en tout cas, il est bien vivant et il s'exporte bien.
Bah, super.
Et j'ai toujours plaisir à voir des films français.
Mais
j'ai pas besoin de réfléchir trop.
Oui, oui, on est d'accord. Ça évite de chercher ce qui est en train de se dire à l'écran. Hein.
Oui, parce que des fois, les films anglais, ça dépend du langage utilisé, mais si j'ai des sous-titres, je vais j'allais dire capturer, mais je vais tout comprendre en subtilité. Quand j'ai pas de sous-titres, je peux facilement mal interpréter quelque chose ou je suis pas trop sûre. Bon, tu suis l'action et les images qui t'aident, mais le film français, ça va être plus jouissif encore.
Ah, c'est toute l'expérience. Après, moi, je trouve que quand il y a des sous-titres, tu lis les sous-titres et tu t'imprègnes pas forcément de l'atmosphère.
Tu regardes pas trop, tu oublies les images. Oui, ouais, tout à fait. Et à ce propos, je voulais. C'est un festival que j'aime beaucoup parce que j'y ai travaillé il y a plus d'une quinzaine d'années. Ils avaient besoin à l'époque de quelqu'un pour dire les sous-titres, non, mais pour raconter l'histoire en anglais. Je crois que c'était un film muet ou en tout cas il fallait qu'il y ait une voix française qui raconte en anglais ce qui se passe. Donc on était deux et quelqu'un faisait Patrick, je me rappelle, faisait la voix les hommes et moi je faisais la voix féminine.
Et donc c'était du doublage.
Oui, on était à côté des grosses bobines de cinéma qui passaient.
Mais non.
J'avais l'impression d'être dans Cinéma Paradiso, tu vois.
Oh là là.
Et on entendait comme ça les bobines qui passaient et on voyait derrière une vitre ce qui se passait. On était au-dessus des spectateurs et on regardait l'écran et on essayait de dire notre texte en même temps. Il fallait être bien.
Ah mais parce que tu devais être synchro avec. Les mouvements de lèvres, en fait.
Ben, il fallait bien suivre l'action. Des fois, on zappait un petit peu parce que. C'était assez stressant. Je crois qu'on l'a fait plusieurs fois parce qu'il a été vu deux ou trois fois. Et puis, gentiment, pour nous récompenser, il nous avait donné un pass pendant tout le festival. Donc là, je m'étais régalée. J'avais pas d'enfant. J'étais assez libre. Et donc, j'en avais vu beaucoup, beaucoup. Et j'avais vraiment apprécié. Mais maintenant, c'est un peu quelque chose d'exceptionnel quand je vais au Festival du film, mais je vais y aller cette année, je vais regarder ce qui est intéressant. Donc je conseille à tout le monde, 18 juillet, donc dans une dizaine de jours, il commence jusqu'au 4 août, réservé avant.
Et est-ce qu'il y a un site internet peut-être pour réserver les tickets?
Si vous allez sur New Zealand International Film Festival, vous allez tout trouver. Et souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont dire, oui, tu peux réserver en ligne, mais moi, je vais travailler en ville, donc je vais au Civic et je vais acheter mes places là je prends les places à l'avance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film festival, mais c'est en plus en plein hiver, c'est bien de l'avoir fait à ce moment-là.
Oui, bah c'est un temps de cinéma, hein. On est bien d'accord.
Oui, sauf cet après-midi où il faisait si beau. Il y en a qui vont s'enfermer au cinéma.
Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Il fait beau, mais il fait froid.
Il faisait frais. Au soleil, ça allait encore. Est-ce qu'on a une chanson à passer ?
Oui, alors celle-là, c'est plutôt moi. C'est des rappeurs qui s'appellent Big Flo et Oli. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ?
Non, moi j'ai un peu décroché. Rappeurs français ?
Oui, c'est des rappeurs français moi je trouve écrivent très très bien. Et ils ont plein de textes qui sont magnifiques sur la paternité, sur le fait d'être français. Enfin bon, ils parlent de plein de trucs actuels.
On va écouter.
Et ça s'appelle Sur la Lune. Et c'est un peu une découverte d'aujourd'hui. Mais je crois que ça fait partie de leur dernier album qui s'appelle La Vie de Rêve.
Et tu me rappelles leur nom ?
Ils s'appellent Big Flo et Oli. C'est des deux frères.
Big Flo et Oli.
Oui.
Ok, on écoute.
Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux, je sais, je le serai un jour. Tu peux pas quitter la terre, tu peux juste en faire le tour. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais.
fait le tour de la terre. J'aurais rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves. Un jour je serai moi, j'aurai assumé toutes mes fautes. Je sais, je suis différent, donc au final je suis comme les autres. Un jour je serai sage, j'aurai fini de faire le con. J'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon. Un jour je serai mort, j'aurai fait le tour de mon âge. Une plaque avec mon nom, une place dans les nuages.
Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sourire. J'aurai réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sourire. J'aurai réglé mes problèmes, j'en ai marre de courir, marre de courir. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
C'était bien.
Oui, hein. Oui. Je trouve qu'ils écrivent très bien. Ils en ont une qui s'appelle Papa aussi, qui est très très chouette.
Moi, qui suis pas très rap, ça m'a pas embêté cette chanson.
Non, bah c'est pas du tout du rap agressif. Hein. Non, ils sont vraiment très doux.
Oui,
dans leur,
et les mots
dans
sont bien choisis. C'est pas trop, c'est pas vulgaire du tout.
Non, c'est du rap familial.
C'est bien. On parlait encore de cinéma.
Oui.
Toi, t'as été donc c'est pour ça que tu sais les prix des places, même si tu m'as dit qu'aujourd'hui c'était moins cher.
Oui, bah c'est les vacances scolaires, donc il y a des offres notamment chez Even Cinemas. Ils sponsorisent pas du tout cet épisode, hein, mais comme tout adulte majeur et vacciné, je suis allée m'enfermer au cinéma pour aller voir Toy Story 4.
Ah voilà. Qui vient de sortir
et qui était super, bah comme toute la franchise Toy Story finalement. Enfin, je sais pas, moi, c'est une des séries qui a un peu marqué mon enfance.
Ça te plaît?
Ouais. Ben, le principe, bon, je pense que tout le monde connaît, mais le principe, c'est et si Pixar, ils aiment bien les et si en fait. Hein, ben, dans Monstres et Compagnie, par exemple, c'est et si le monstre qui vous faisait peur, qui se cachait sous votre lit, existait vraiment. Et dans Toy Story, c'est et si vos jouets étaient vivants quand vous êtes parti. Et donc, ils ont déjà fait 3 films sur ce sujet. En explorant plein de choses finalement sur quand on perd un jouet et qu'on le retrouve à un autre endroit, peut-être que c'est parce qu'il s'est déplacé ailleurs, donc ça crée du comique des situations. Les jouets qu'on aime et qu'après on délaisse ou qu'on donne,
qu'est-ce que ça leur fait
exactement. On en parlait un peu avant, mais moi j'ai l'impression que ma théorie en tout cas sur ça, c'est que les jouets n'ont pas besoin de se nourrir finalement, mais ils se nourrissent de l'amour des enfants.
Ouais.
Et quand on leur en donne pas, ils sont mal et ça leur crée des déséquilibres psychologiques finalement, un peu comme nous, on mourrait de faim, eux ils meurent de manque d'amour, de pas avoir un enfant avec qui jouer.
Ils se dessèchent.
Exactement. Et ce film-là était excellent. Je trouvais que le troisième Toy Story était une bonne conclusion à l'histoire. Mais finalement, je suis assez contente qu'ils en aient fait un quatrième. C'est une très belle élaboration, c'est une suite. Donc, ça reprend l'histoire des jouets un petit peu après la fin de Toy Story 3.
Et toujours le cow-boy.
Il y a toujours le cow-boy. Ouais, j'ai l'impression que c'est son histoire finalement.
Oui.
Et il leur arrive encore plein d'aventures. Et il se retrouve dans un magasin d'antiquités, dans un parc d'attractions. Enfin, oui. Voilà. Et c'est très très drôle. Et en même temps, moi ça m'a un petit peu fait pleurer, j'avoue.
C'est vrai.
Ouais, vraiment,
faut
vraiment.
Avoir son mouchoir alors.
Mais ils sont très forts pour ça. Ils arrivent à créer une émotion alors que. Bah, tu me disais juste avant, parce que je te disais, mais ce serait tragique la vie d'un jouet s'il avait une conscience.
Ouais, ouais.
Et tu me disais, mais t'inquiète pas, ils n'ont pas de conscience. Mais en même temps, ils arrivent à t'y faire croire.
Oui, voilà, c'est l'illusion, c'est la magie du cinéma, ça.
Mais totalement. Et ce qu'ils appellent en anglais suspension of disbelief, moi, ça marche à fond sur moi pour ce film, vraiment. Mm-hmm. Et j'étais là, vraiment, ce jouet a trop besoin d'être aimé, mais c'est horrible, mais je vais pleurer, voilà. Et j'ai versé ma larmichette. Bon, je vous dis pas quand, hein, je veux pas vous spoiler, mais ouais, c'était très très bien. Donc, voilà, si jamais vous avez $12 à perdre pendant les vacances, ouais. Allez-y.
Et emmenez les enfants.
Parce que c'est le genre de film qui amuse les enfants et qui amuse les parents. Il y en a pour tout le monde,
c'est bien.
Mmh. Tout à fait.
Et n'achetez pas de plastique. On est dans, tu sais, Plastic Free July.
Oui, tout à fait.
Moi, j'en connais qui font Plastic Free July et Dry July. Donc, ils ne boivent pas d'alcool tout le mois de juillet. Et moi, je suis plutôt dans... L'alcool, j'en bois très peu, mais je ne vais pas m'arrêter comme ça. Plastic Free July, donc c'est... je vois les gens faire des efforts, hein, ne pas, il y a plus normalement, tu ne peux plus avoir de petits sacs ou de grands sacs quand
non,
tu fais
effectivement,
des courses.
Non, effectivement, oui.
Beaucoup de magasins, même les endroits où les gens les utilisent d'habitude, les commerçants s'en fichent complètement. Ils sont passibles d'amende, donc.
Ah bon ?
Oui, oui, jusqu'à $30,000. Il y a une loi qui est passée, donc il ne faut plus, à partir de maintenant, c'est pas juste pour moi juillet, hein, c'est à partir du 1er juillet, il y aura plus de sacs plastiques à usage unique qui sera donné à un client. En revanche, ils en vendent certaines fois.
Mais ils en vendent en plastique parce qu'ils sont
un peu plus oui. forts, qui peuvent contenir plus, qu'on peut réutiliser. C'est le plastique à usage unique. Bon, c'est bien, mais ça représente très peu. Bon, j'ai déjà un bon début. Hein. Faut toujours avoir ses sacs sur soi. C'est une habitude à prendre, mais je crois que les gens, moi, quand je vois les gens qui vont au supermarché, je me dis, ah, ça y est, il a son sac.
Mais tu sais que moi, j'ai observé un truc très marrant maintenant, c'est le nombre de gens qui partent avec leur truc dans les bras. Mais oui, parce qu'ils ont oublié leur sac et ils ne veulent pas en racheter un parce que c'est bête. Mais du coup, voilà, il y a un phénomène.
S'ils sont venus en voiture, ce qui est quand même le cas de beaucoup, là, ils sont impardonnables parce que tu laisses dans le coffre de ta voiture deux grands sacs.
Tout à fait.
C'est vraiment, ça, c'est simple à faire. Faut juste les remettre.
Ouais. Oui.
Voilà.
Oui, oui. Mais
faut
bon, même,
3, 4,
même s'ils sont venus en voiture, c'est pas très grave. On le porte dans ses bras. Bon, on a l'air un petit peu bête
si
jusqu'au coffre,
pied,
mais après.
Là, c'est un petit peu. Là, je crois que j'achèterai un sac parce que ça.
Mais ça m'est arrivé l'autre jour d'ailleurs. D'habitude, j'ai toujours un sac à dos sur moi. Et là, j'avais rien. Et j'y suis allée tranquillement pour m'acheter mon poulet et mon brocoli. Et je suis repartie avec mon poulet et mon brocoli sous le bras. J'avais l'air malin.
C'est pas grave.
Ouais, tout à fait.
Non, mais t'étais bien, t'étais écologique. Tu
n'as
pas utilisé sac
oui,
plastique.
Oui, enfin bon, mon poulet était quand même emballé dans du plastique. Donc c'est là que tu dis que le chemin est encore long. Hein.
Parce qu'on élimine le plastique à usage unique, mais 90% des choses dans le supermarché sont emballés dans du plastique plus ou moins rigide, il y a beaucoup trop d'emballage. Donc là aussi, hein, on peut, mais c'est une question d'organisation, on peut faire un choix différent. Il faut aller à des refileries, on dit comme ça en français, des ressourceries, je ne sais pas comment on dit, des magasins de vrac où tu vas avec tes propres bocaux qu'on pèse à l'entrée du magasin, ils mettent le nombre de grammes, ils le soustraient à la fin de la, quand tu vas payer tes achats et tu ne payes évidemment que ce que tu vas consommer, ce que tu veux acheter et tu arrives chez toi, tu ranges tes bocaux dans ton armoire.
Oui.
Ça peut être très simple, mais il faut juste le penser avant et savoir où aller. Mais on a tout à fait le choix. C'est juste, on a de mauvaises habitudes, on a tout au supermarché.
Oui, et c'est tellement facile d'aller au supermarché pour s'acheter son truc emballé dans du plastique.
Que tu sais que le plastique sera là dans 400 ans, dans 1000 ans.
Bah, ils en ont déjà trouvé. Les dernières études qu'ils ont fait sur les océans ont prouvé qu'il y avait maintenant du plastique à tous les niveaux,
oui, oui.
Dans tous les océans. Ce qui est quand même, enfin moi en tout cas,
dans
ça me pousse
poissons,
à y réfléchir.
On en a dans nous, c'est sûr. du glyphosate. Bon, donc c'est pour ça en fait, c'est tellement facile. En fait, c'est facile, mais on peut pas se débarrasser de ce problème de plastique facilement. Donc il faut faire l'effort avant, en amont, d'aller acheter à certains endroits sans créer. Plus les gens font ça, plus il y aura des magasins en vrac qui fleuriront partout et qui deviendront moins chers. Bon, c'est pas si cher parce que en fait ils vendent beaucoup d'organique. C'est le prix de l'organique et tu es moins quand on va dans ces magasins-là, il y a moins de choix. Bon, il y a toujours tout ce qu'il faut, hein, de nécessaire. Mais il y a moins de superflu, donc tu finis par pas tu n'achètes que vraiment ce que tu as besoin. Donc à la fin, c'est pas plus cher, je crois.
Non, et je pense que t'as raison, parce que une des choses, moi, qui me frustre le plus, c'est que tout est pensé pour une famille de quatre. Ce qui est super quand t'es une famille de quatre, mais c'est vrai que tu finis par acheter trop, et c'est pas bon pour la santé non plus, parce que tu manges trop potentiellement, ou alors
Est-ce que tu vas dans des magasins en vrac, toi?
Oui, plutôt pour ce qui est shampoing, gel douche, etc. Ça y est, je re-remplis et tout. Ouais. Après, à côté de ça...
T'achètes pas des barres. Donc, pour éliminer complètement l'emballage, tu sais qu'il existe du shampoing en barre, du conditionneur en barre... Comme ton savon, c'est une barre de savon, je suis sûre.
C'est une barre de savon.
Mais on peut faire exactement la même chose pour les shampoings.
Mais oui, je me suis renseignée. Mais alors, pour le coup, niveau expérience, pour l'instant, j'ai un peu de mal. J'espère y arriver.
On peut prendre des échantillons. Une barre éthique vend des échantillons. Donc, t'en as quatre. Donc, tu peux tester ce qui te plaît le plus. C'est des petites. Ça dure quand même un moment. Hein.
Oui, c'est plus économique en général. On est d'accord.
On est parti sur le sujet écolo. Moi, je peux faire ça pendant une heure, donc ça va.
Écoute, mais pareil. Non, mais pour finir quand même sur les emballages plastiques, ce que tu disais, c'est très vrai. Mais j'espère aussi voir des initiatives un peu comme là en ce moment en ville pour essayer d'utiliser moins de verre. Comment on dit, tu sais, les caps, les coffee caps,
de
tasses de café en carton.
Oui. Qui sont jetables.
Voilà, qui sont totalement jetables. Il y a maintenant une initiative où...
Keep Cup. Tu gardes ta Keep Cup qui est en verre avec un couvercle en rubber.
Alors, il y a ça, mais il faut prévoir d'avoir ta coupe avec toi tout le temps, etc. Donc, j'ai vu maintenant des espèces de petites coupes en métal que tu prends avec toi et qui sont réutilisables et tu les ramènes au café la fois d'après et ils t'en donnent une nouvelle.
Oui, et il y a plusieurs cafés qui font ça, donc t'es pas obligé de le ramener au même café, le ramènes ailleurs. Et c'est une consigne?
Oui, c'est un peu ça, c'est le même principe.
Et t'enlèves 50 cents quand tu la rends ?
Oui, je sais pas, parce que coup, moi j'ai ma propre coupe réutilisable, mais effectivement, ça permet
de... Ta propre tasse.
Ma tasse, c'est ça.
Oui. Merci.
C'est le faux ami.
Je pense à autre chose. Donc, une tasse à utiliser. En fait, c'est vraiment un changement d'habitude parce que dans ton sac, tu devrais toujours avoir, tu sais, des petits sacs tout fins qui prennent vraiment, qui sont aussi grands que ton doigt, qui sont tout fins, que tu mets dans une petite pochette. Donc ça, t'arrives quelque part, t'as pas pensé, tu fais un achat, paf, tu sors ton truc, ton petit sac en tissu. Et le café, moi je prends jamais du café à emporter. Je suis vraiment française. Si je veux un café, je m'assois et je prends 2 minutes pour boire mon expresso ou 5 minutes. Mais j'ai jamais bien compris le principe de se trimballer, de bouger et de boire en même temps. Donc ça, je le fais pas. Donc j'ai pas besoin. Mais c'est très américain.
C'est très américain. Mais moi, je trouve que notamment dans le milieu professionnel, c'est difficile de pas prendre son café à emporter. Parce que ça permet de socialiser avec ses collègues et les collègues ne comprennent pas que tu restes et que tu t'asseyes pour boire ton café.
Pourtant, ça serait sympa de s'asseoir autour d'une petite table ensemble.
Bah oui, mais je sais pas, c'est pas dans la vibe. Ça dépend de la culture d'entreprise.
C'est totalement culturel, t'as raison. Et donc, d'avoir sa tasse, son petit sachet, et après, changer ses habitudes, aller dans des trucs en vrac, des magasins en vrac. Et au magasin, au fermier, au marché fermier près de chez soi, ou au marché d'Avondale, ou au Tara, ou les marchés qui existent.
Oui, tout ce qu'on peut faire en tout cas, parce que souvent les gens sous-estiment l'impact qu'ils peuvent avoir sur...
Ça fait une grosse différence. Parce que quand on met, quand on pense recycler, c'est le dernier, en fait, pratiquement... je crois que c'est 9% des plastiques sont recyclables. Donc, ça veut dire que tout le reste est enterré ou brûlé, qui se retrouve en Malaisie, parce que la Chine a dit non maintenant, donc on les envoie ailleurs. Et les pays en voie de développement, on en marre qu'on les pollue. Ils s'insurgent là. Mmh. Et bientôt, ils fermeront leurs frontières aussi, parce que ça leur rapporte beaucoup moins, ça leur rapporte plus d'ennuis que d'argent. Et beaucoup plus de pollution, des gens qui meurent et surtout qui sont effarés par ce qui arrive. Donc, ils sont inondés de ce plastique. Et comme on n'a pas encore les usines pour le traiter, bon, ça va se faire rapidement. Hein. Si on va être enterré sous nos propres déchets. Et chaque pays va être responsable. Donc, on va être responsable de ce qu'on crée. Donc, je rêve du jour où ils ne reprendront pas nos poubelles recyclables. Mmh. On l'aura chez soi, ce plastique. Est-ce qu'on le veut dans son jardin ? Ou sur son balcon, si on n'a pas de jardin ? Ça va être la question. Mmh. Donc, il faut un peu y penser à l'avance. Et éduquer les enfants aussi dans cette optique.
Mais je pense que sur ce point-là, les mentalités commencent à changer.
Très lentement,
mais quand même, on sent que culturellement, ça commence à avoir un petit peu de traction.
Moi, je crois que ça change dans notre cercle, tu vois, les gens autour de nous. Mais
même au niveau national, par exemple, les supermarchés qui refusent maintenant de donner des sacs plastiques à usage unique. Non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de changement législatif, c'est exactement ce dont on a besoin pour changer les mentalités partout.
Lois, oui, c'est ce que tout le monde dit. Il faut que ça passe par l'exécutif, le législatif. Il faut absolument qu'il y ait des lois qui obligent les enfants gâtés que nous sommes à changer leur comportement, parce qu'on peut plus faire voilà, c'est fini ça. On s'est bien amusé, on l'a bien détruite la planète, maintenant il faut nettoyer, réparer, changer tout quoi.
Oui, bah
comment on produit de l'énergie, comment on consomme, où on va.
Ça change. Si tu regardes des graphiques sur les fossil fuels, les énergies fossiles par rapport aux énergies renouvelables, on voit que la courbe commence à s'inverser. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui font passer des régulations ou qui ont des politiques qui visent à les enlever. Mais oui, je suis d'accord avec toi que le changement est lent.
Ça va très lentement. Et quand on sait qu'on ne veut pas passer les 1,5 degré de réchauffement climatique, je crois que c'est quand, dans les 2 ans, on a très peu d'années pour faire ça. En fait, il faut toujours avoir de l'espoir. Je vais finir là-dessus, je te laisse enchaîner.
D'accord, mais est-ce que tu veux qu'on écoute une musique ?
Oui.
Alors celle-là, c'était une de tes requêtes, Les Marquises de Jacques Brel.
Ah oui, qu'est-ce que c'est beau écouter ça.
Bon alors, on va écouter ça.
Il a fini, je dirai après. Les Marquises.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit, il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquise. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance. distance et quelques pas de deux et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson.
Ouais, c'est magnifique, c'était une découverte pour moi.
C'est vrai.
Ouais.
Moi, j'ai un CD de Brel que je mets régulièrement et celle-là, c'est la chanson numéro 8 et je la passe en boucle, en voiture toute seule. Si je conduis, je peux l'écouter, je la connais par cœur. Et je la trouve très poétique. Et puis, les marquises, ça m'a toujours fait rêver, j'ai toujours voulu y aller. Maintenant que j'habite dans le Pacifique, j'espère que j'irai un jour. Et c'est l'endroit où il a fini sa vie. Il est enterré aux Marquises. Il a beaucoup aidé les Marquisiens parce que je ne sais pas s'il y a été. Il est mort d'un cancer, Brel. Et il a passé son brevet de pilote. Et il aidait gracieusement les gens qui avaient besoin, qui étaient malades, qu'il fallait rapatrier à l'hôpital. Donc, je ne sais pas où ils allaient parce que les Marquises, on n'est pas près de, on est loin de tout. Mais il aidait toute la population, donc on le connaissait plutôt comme le gars qui a l'avion et qui te donne un coup de main que le chanteur.
Ah.
Il était vraiment complètement inclus et adopté par la population locale.
Ouais, c'est incroyable. Comme quoi, il n'y a pas que l'œuvre de quelqu'un, hein, il y a aussi ce qu'ils font.
Oui, il a un grand cœur. Et, quand tu connais sa vie, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Jacques Brel. Et ses chansons, on pourrait en passer plein, hein. Les bourgeois, les bonbons.
Mais tu n'as qu'à demander. Oui, j'aime bien les bourgeois, c'est une de celles qui
les fenêtres,
qui me font rire.
Ouais. J'aime beaucoup celle-là aussi. Jacques Brel, en fait, un regret, c'est que je ne sois pas née 20 ans plus tôt. J'aurais voulu le voir sur scène. Parce que quand tu vois des vidéos de Jacques Brel sur scène, il a une présence, il est tellement, tu l'as déjà vu? T'as déjà vu?
Non, j'ai jamais vu de vidéo, j'ai juste écouté ses chansons.
Il est incroyable. Il y a rarement des gens comme ça, à part Piaf peut-être, où il est suant, il est tellement là qu'il est, il s'imprègne, il fait passer une énergie, il fait passer quelque chose de extraordinaire, cet homme. Il était vraiment, il brûlait un peu la chandelle par les deux bouts, mais très très vivant et très très inspirant, très généreux, formidable. Il disait qu'il comprenait pas les femmes. Il comprenait pas les femmes, mais il aimait les hommes. Enfin, il était pas homosexuel. Je veux dire, il aimait les hommes. Il aimait le genre masculin. Il se sentait très proche des hommes, plutôt. Il dit que les femmes ont toujours été un mystère pour lui. Tout ce qu'il avait de la tendresse pour les hommes. Donc, j'aime bien l'écouter parler des hommes parce qu'il m'aide à les comprendre mieux parce qu'il parle, lui. En général, les hommes ne parlent pas. Donc, pour moi, c'est un mystère, les hommes, beaucoup. Alors, j'écoutais Jacques Brel parler, comme ça, de la gente masculine. Ça m'a appris certaines choses. Voilà, après ça, qu'est-ce qu'on raconte, nous?
T'avais quelques nouvelles pour nous?
En fait, c'est la période de... Bon, le festival du film international va arriver, mais maintenant, c'est la période de Matariki. Alors, Matariki...
Oui, je ne sais rien, donc je vais t'écouter avec plaisir.
Tu connais, est-ce que tu sais ce que c'est, Matariki?
Alors, vite fait, je sais que c'est le nouvel an maori, mais je ne sais pas du tout pourquoi, comment, quelle est la symbolique.
Voilà. Matariki, c'est le nom d'une étoile qui est la mère de sept étoiles et qui a fait... Donc, c'est tout symbolique. Hein. En fait, Matariki représente... c'est les Pléiades.
D'accord.
Les Matariki, toutes les étoiles qui sont autour de Matariki sont dans l'hémisphère nord, on le connaît sous le nom des Pléiades. Mm-hmm. Et les Pléiades, ici, dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande, on les voit apparaître au milieu de l'hiver, là maintenant, au fin mai, début juin, on commence à les voir. Et comme dans l'hémisphère nord, en fait, les populations indigènes célébraient le renouveau, puisque les jours les plus courts étaient là, donc c'était la fin de l'année et on allait vers une année nouvelle, mm-hmm. comme nous en France, où après c'est le 25 décembre, la journée la plus courte, je crois.
Le 21.
Le 21. Ah oui, puisqu'on est comme le 21 juin. Oui. Donc le 21, ben c'est ça. Donc le 21 juin, c'est la journée la plus courte, mais après le 21 juin, les jours rallongent. Donc pour exactement comme pour nous en France ou en Europe, voilà, on va vers une nouvelle année. Donc c'est pour ça qu'on célèbre. Donc en fait, c'est leur Noël. C'est le moment où ils ont on est ensemble, on partage la nourriture, où il fait le plus froid, où on a plus le besoin de célébrer la communauté. En fait, on a besoin des uns des autres.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une des choses les plus difficiles, je trouve, du fait de vivre en Nouvelle-Zélande, c'est que l'hiver, je trouve, est très difficile parce que justement, il n'y a pas de Noël au milieu pour se rassembler.
Tu pourrais suivre les fêtes de Matariki, ça te plaît. Moi, j'adore cette période grâce à ça. Donc Matariki était célébré dans toute la Polynésie, dans tout le Pacifique, aux îles Marquises, à Samoa. Je crois que j'ai une carte là je sais plus où elle est. J'ai une carte.
Oui, t'as un beau livre sur Matariki.
En fait, j'ai emprunté à ma voisine qui parle ma Tereo couramment, et on avait été ensemble écouter un astrologue maori qui s'appelle Rangi Matamua, et j'étais allée à une de ses conférences, parce qu'il va dans toute la Nouvelle-Zélande faire des conférences sur les étoiles, parce qu'il est le descendant d'une génération de astrologues et astropaphysiciens, mais de gens qui étudient en tout cas le ciel. Et il a gardé toute cette tradition et il parle Tereo, donc le maori couramment. Donc il a écrit d'abord son livre en maori et ensuite il l'a traduit. Moi je l'ai en anglais là. Et il partage ses connaissances parce que donc c'était célébré dans tout le monde pacifique au même et ça s'appelle toujours Matariki. Bon, mm-hmm. Il change un peu parce que des fois on dit pas les R dans certains endroits, donc c'était Matariri. Et voilà, il le célébrait au même moment. Toutes les histoires sont très très proches les unes des autres. Et Rangi, c'est un nom prédestiné parce que Rangi, ça veut dire le ciel.
D'accord.
Donc on lui a bien donné ce nom pour une raison. Il a intérêt à suivre sa lignée et pas trop s'éloigner, toujours avoir les yeux tournés vers le ciel. Voilà. C'était transmis, on savait beaucoup de choses, ils savaient, parce qu'ils passaient en fait leur soirée du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil à étudier le déplacement des étoiles, leur brillance, si elles s'éloignaient, si elles avaient l'air de se rapprocher, si en cette période elles étaient un peu cachées. Donc tout ça avait une... Et puis rapprochés de certains faits, enfin empiriquement, ils ont arrivé à trouver des significations, des concordances, et ils ont noté tout ça. Enfin, ils se le rappelaient, ils se le transmettaient, et c'était grâce à ça, on pouvait savoir si les récoltes allaient l'année prochaine allaient être bonnes, s'il fallait plutôt pêcher en eau douce ou aller plutôt pêcher en mer. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de morts dans leur tribu, parce que tout est local. Tu vois les étoiles différemment si tu t'éloignes à 50 km. C'est c'est plus tout à fait la même vision. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de savoir, de prévisions, de conseils qui pouvaient être donnés par la lecture des étoiles. Et chaque étoile avait un nom, donc il y en a des milliers, hein. Et tout a été rapatrié.
Elles ont toutes été nommées.
Oui, elles ont toutes un nom. Et le premier qui a commencé à les nommer ou les rapatrier, c'est un Français en 1771 qui s'appelle Messier.
D'accord.
Et lui les a numérotées. Alors, par exemple, Madariki, c'est M pour Messier 45. Donc, des fois, on parle de M45. Les gens disent ça, mais on sait que c'est les Pléiades. Et eux, ils ont donné des noms, les Maoris, avec souvent des relations familiales intergénérationnelles entre les étoiles. Donc, d'accord, il y a une mère, un père, des enfants. Chaque enfant a une symbolique aussi. C'est quand tu commences à t'y intéresser, c'est très riche, c'est très intéressant. Et puis, comme toutes les histoires maoris, tu sais, c'est assez... par exemple, là, pourquoi Matariki existe ? Parce que un des fils n'a pas supporté que sa mère soit morte, donc il s'est arraché les yeux et les a lancés vers le ciel.
Oh, c'est graphique.
Oui, et puis voilà, ça a donné les étoiles.
Donc, est-ce que c'est une sorte de mythologie ?
Complètement. Mais mythologie qui te permet de te rappeler des choses, parce qu'en fait, puisque c'est graphique, comme tu le dis, puisque c'est symbolique, ça s'ancre mieux dans les mémoires. Mmh. Et en plus, c'est pas dit pour rien. Il y a des raisons derrière chaque fait. Donc, j'ai trouvé ça passionnant. Et Matariki, en ce moment, c'est donc Matariki. Et tout ce qui est... Ah oui, parce que c'est ça que je voulais dire, en fait. Donc, ça a été célébré pendant des centaines d'années. Mais... ça a été complètement oublié puisqu'on a complètement annihilé cette culture maori. On n'avait pas le droit de le parler à l'école, c'était interdit. Donc pendant deux générations, trois générations, on a oublié. Peut-être les gens continuent à le faire, mais la plupart du temps, ça a été passé sous silence. Et depuis les années 80, je l'avais lu, mais je me rappelle plus exactement pourquoi. C'est revenu sur le. On en a reparlé. C'est à Hawke's Bay que ça a recommencé en premier, le jaillissement de la célébration de Matariki. Et puis le gouvernement a trouvé que c'était une bonne chose et ils l'ont renforcé. Et donc maintenant, c'est complètement dans les mœurs, mm-hmm, de célébrer Matariki.
Mais alors, comment est-ce qu'on célèbre Matariki?
Alors il y a un festival, il y a beaucoup de gens qui se réunissent pour chanter, il y a des danses, on peut aller avec des guides aller observer les étoiles et se les faire expliquer. Tu vois, par exemple, si tu vas au planétarium, tout est autour de l'observation de Matariki en ce moment.
D'accord.
Et puis là, je regarde dans...
Et les Maoris, parce que je pense à nous, par exemple, dans l'Occident, on a Noël où on a la tradition de se retrouver ensemble, de manger, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable dans le cercle familial
maori ? Tout à fait. Tout à fait. En général, chacun amène un plat. Et oui, ils célèbrent complètement Matariki. Ils se retrouvent, on est en famille. J'ai pas lu assez de détails, mais je sais que les gens célèbrent Matariki. Et aussi autour de moi, souvent on se réunit. On amène quelque chose. Et c'est Matariki. Et si tout le monde va en profiter, ils peuvent aller... tu vois, là, je vois que le 6, 9 et le 11 juillet, les gens font du bone carving. Donc, ils appellent ça Matariki, parce que c'est au moment de Matariki, donc c'est Noël, quoi. Après, il y a quelque chose pour les enfants. Du 12 au 20 juillet, donc pendant les vacances, il y a une compagnie de danse qui présente autour des étoiles, qui font une danse, et puis ils la présentent aux enfants au Bruce Manson Center.
C'est un peu comme nos marchés de Noël, je trouve. Enfin,
tout à fait.
C'est le même esprit.
C'est même un petit peu commercial maintenant, mais... en tout cas, si on est en Nouvelle-Zélande à ce moment-là, c'est dommage de ne pas s'en imprégner et de louper. Puisque tous ces événements sont gratuits, sont vraiment là pour promouvoir la culture maori et la culture du pays. Qu'est-ce qui fait qu'on est un peu plus spécial en Nouvelle-Zélande qu'en Australie ou qu'en Angleterre ou qu'en dans un autre pays anglo-saxon ? C'est le fait qu'on a toujours une culture maori vivante. Mmh. Donc, c'est ce qu'ils mettent en valeur. Et voilà. Et j'aurais dû faire peut-être un peu plus bosser, potasser ce livre qui est extraordinaire.
Non, mais c'est une super manière de se familiariser avec, je trouve, le toute la mythologie et le panthéon maori. Ouais. Parce que moi, je connaissais juste les histoires de Maui, notamment. Et je trouve, ça résonne beaucoup avec moi ce que tu dis sur tout a une explication.
Tout à fait.
Que l'île de Nouvelle-Zélande, par exemple, qui représente le poisson que Maui a pêché sur son canoë, qui est l'île du Sud, c'est un petit peu la même chose finalement que d'expliquer que cette étoile est là parce que un dieu s'est arraché les yeux. Enfin, je trouve qu'il y a toujours
Ururangi qui s'est arraché les yeux.
Oh, le pauvre, le pauvre. Une minute de silence pour Ururangi du coup.
Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé pendant la conférence, c'est de savoir qu'ils avaient cette connaissance si riche, sans livres, sans rien, mais qui se passait oralement et qui a failli se perdre, et qui, grâce à comme, des gens comme Rangi Matamua, qui veut créer même une université d'astrologie basée sur l'astrologie et la cosmologie maori, et il va le faire d'ailleurs, je suis sûre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés aussi. C'est surtout cette connaissance très profonde, très complexe, spirituelle, qui a un rapport avec la santé, avec les prévisions météo, la terre, très d'une richesse mais formidable, et qui savait tout ça en observant les étoiles. En fait, on n'a rien, la science moderne n'a rien à leur envier, et de retrouver ça, c'est très bien.
Mais c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai que souvent on regarde les peuples que les colons appelaient primitifs, et au final ils savaient plein de choses.
Ouais, mais maintenant ça change complètement, parce que on parlait un peu d'écologie avant, mais on y revient, parce que il y a des lois d'ailleurs qui passent pour protéger le savoir et ces peuples ancestraux, parce que primitif, on peut pas dire. Primitif, c'est le premier, quoi.
Alors, je faisais des guillemets dans les airs, pour bien préciser. C'est le point de vue des colons qui venaient coloniser. On est bien d'accord que je ne cautionne pas.
Les gens, comme disaient, qui s'appelait les vrais humains? Je crois que c'est les aborigènes, qui s'appelaient les vrais humains, dans leur langue.
Mais comme maori, ça veut dire le peuple.
Voilà. Donc c'est, donc tous ces peuples, qui vivent en harmonie dans leur environnement, qui ne l'ont pas détruit, qui l'ont au contraire continué à le respecter, à le faire grandir, à ne pas le détruire en tout cas, c'est déjà énorme. Donc maintenant, on se retourne vers eux et on leur demande comment vous faites, comment vous vivez, comment vous y arrivez. Apprenez-nous, s'il vous plaît. Donc là, il y a un retour de situation, et il faut revenir vers. Je ne dis pas qu'on va vivre dans des cavernes avec des pagnes en feuilles de bananier. On n'en est pas là, mais il faut s'inspirer d'eux. En fait, il faut leur sagesse et
c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a acquises. Notre science peut-être est sur sur un niveau différent, où on essaye d'expliquer pourquoi. Mais au final, il y a un certain sens, un certain bon sens dans la manière
bien
de
sûr,
vivre, où tu te dis que, par exemple, il y avait un exemple sur les Inuits qui ont un régime alimentaire très spécifique.
Ah, c'est les Inuits qui s'appelaient les vrais, tu viens de le dire, c'est eux
c'est
qui
vrai?
S'appelaient les vrais gens, oui, les humains. Les autres, tous les autres, c'était
voilà.
Les barbares.
Mais voilà, il me semble que donc, ce peuple-là avait un régime très spécifique qui était à base de beaucoup de protéines, très peu de végétaux, etc. Mais ils savaient quelles racines manger pour ne pas avoir le scorbut, par exemple. Et ils savaient que si on ne mangeait pas cette racine, nos dents devenaient noires et tombaient. Ils n'avaient pas besoin de savoir que c'était un manque de vitamines, par exemple. C'est un peu l'observation et l'empirisme, quelque part.
Science sans conscience, des cœurs ruineux de l'âme. Et le problème, c'est qu'on a abusé de science, mais pas de notre conscience. On n'a pas élevé notre conscience, on a développé la science et on n'a jamais élevé notre conscience. Et là, on est rappelé à l'ordre. C'est qui a dit ça? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Tu me poses une
question. Tu connais cette phrase?
Oui, j'en ai déjà entendu parler. Tu sais quoi, on va peut-être se passer une musique et on va chercher pendant ce temps qui a dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
D'accord.
Alors, j'ai un petit extrait du top 50 de maintenant. Et il est
ça existe toujours, le top 50?
Oui, maintenant c'est le top 50 internet. Je sais pas si ça existe encore, le top 50 radio. Tu me poses une autre colle. Bon, on va tout googler pendant la musique.
Trouve-nous le top 50.
Mais bon, je trouvais que c'était ça allait bien avec ce dont on parlait, puisque ça s'appelle Les Planètes. Alors c'est de M. Pokora. Moi, j'en étais restée quand il reprenait Claude François, donc voilà.
On découvre ce qu'il dit. Les Planètes.
Voilà.
C'est parti.
monde. 4h du mat, loin des phares. 207 chambres d'hôtel. Je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes. Au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Un shot, je pense à toi. Deux shots, je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, des planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence. Je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Une nuit de bus, solitude dans le tourbus. Aucune muse ne m'amuse. Je t'appelle mais tu décroches pas. Un shot je pense à toi. Deux shots je pense à toi. Trois shots je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, des planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence. Je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Quand je danse, quand tu danses, des planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence. Je reviendrai au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo. Ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau, laisse. Moi donner le tempo, laisse. Ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie?
Donc, on a fait notre petite recherche et science sans conscience n'est que ruine de l'homme.
Oui.
C'est.
Bah, vas-y, dis-le.
C'est Rabelais
et
qui
oui.
dit ça. Et donc, ça fait longtemps que je n'ai pas lu Rabelais. Hein. Mais bon.
Il avait plus, mais il écrivait en vieux François, non?
En vieux François.
Bah oui.
Ce que j'ai lu, c'était. Il date de quand d'ailleurs? Je ne sais pas la date.
Oh, Rabelais, c'était pas 1500 ou 1600? Dommage. Tu me reposes une colle.
Non, mais
écoute.
Là, on n'a pas le temps. Donc, voilà, on réfléchissait encore avec Alix comment on peut. En fait, il ne faut pas tellement regarder les médias et il faut vraiment faire marcher son sens critique, son bon sens, tout simplement. Et voilà, et c'est ce qu'il disait. Il disait que une science qui n'a pas une connaissance qui n'est non réflexive ne permet pas à l'homme de se l'approprier et donc de progresser. Donc progresser, c'est progresser dans tous les sens, pas que progresser d'une manière monétaire.
Oui, et puis conduire une réflexion en fonction de ce qu'on considère être juste et droit et important. Enfin, c'est aussi important et ça doit faire partie de la réflexion.
Actuelle, c'est savoir si parmi les gens qui nous écoutent, qui voudrait participer à la radio. on a besoin de nouvelles personnes, de nouveaux sujets, d'énergie autre. C'est beaucoup plus intéressant quand les gens viennent d'ailleurs. Vous avez l'impression que vous avez rien à dire, mais c'est pas vrai. Regardez, moi, j'avais pas grand chose à dire.
Mais si tu avais plein de choses à dire, c'est vrai.
Non, je suis grande bavarde, mais on a besoin de vous. Si vous nous écoutez, donc comment les gens vont faire? Ils vont sur le site de Planète FM ou à Musgueule?
Oui, alors nous avons une page Facebook qui s'appelle Amuse-Gueule.
Parfait.
Donc le plus simple, c'est d'aller là et de demander à contacter la page. Et nous monitorons régulièrement la page et nous répondons. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur Facebook. C'est là aussi qu'on peut retrouver tous nos épisodes. Parce que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent en direct sont au courant, mais on peut écouter nos épisodes en différé. Donc nous sommes disponibles sur Mixcloud. Et la page Facebook recense tous les liens vers Mixcloud pour retrouver nos épisodes.
Donc voilà. Faites-nous un petit texte, un petit coucou sur Facebook. Et même si vous n'êtes là que de passage à Auckland, 2 mois, 3 mois, si vous restez plus longtemps, c'est mieux. Vous pouvez vous investir. Mais si vous n'êtes là que pour... Surtout si vous avez des choses à dire, vous avez créé quelque chose, vous avez vu des choses extraordinaires dans votre voyage en Nouvelle-Zélande, vous voulez faire une annonce, vous avez une passion... vous avez des choses comme ça, ça serait sympa de vous avoir à l'antenne. Donc il faut être là. C'est toujours le dimanche soir de 6 à 7 à Unitech entre Montalbert et Pointe-Chevalier. Voilà, on est en direct. Les 9/10 des émissions sont faites en direct. Il y en a quelques-unes qui sont préenregistrées, mais on peut pas vous promettre. Donc soyez libres un dimanche soir. Et puis contactez-nous et venez nous rejoindre, s'il vous plaît.
Et oui, vraiment, comme tu le disais, tous les sujets sont acceptés et même encouragés.
Oui.
Et moi, je trouve en tout cas qu'à chaque fois que je viens, que ce soit pour faire la technique ou pour discuter...
On apprend quelque chose
et il y a toujours des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui viennent. La dernière fois qu'on était ensemble, tu avais Guillemette qui était venue des étincelantes.
Oui, oui.
Et elle avait plein de choses à dire et c'était une femme qui était complètement passionnante à écouter, même si...
Elle peut revenir, d'ailleurs.
Oui, bah oui. Si elle nous écoute, oui, on serait ravis de la avoir.
Je suis toujours en contact avec elle.
Mais tout à fait. Mais c'est un très bon exemple d'une personne qui est venue nous raconter son histoire et son cheminement personnel.
Elle en a fait son activité principale.
Tout à fait. Mais voilà, donc clairement, moi j'ai trouvé qu'elle était habitée par ce qu'elle faisait et que c'était très intéressant de l'écouter. Donc voilà, si vous êtes une personne comme ça qui a une passion ou qui a envie de discuter d'un sujet, mais
venez faire votre pub.
Ouais, mais venez faire votre pub, venez passer votre message. Voilà, on attend que ça.
Alors, s'il vous plaît, allez sur la page Facebook d'Amuse-Gueule. Parce qu'on a besoin de vous.
Voilà.
Ça serait bien. Est-ce qu'on a une petite musique pour finir?
Oui, une petite musique en douceur pour terminer. D'accord. Est-ce que tu connais Vangelis?
Oui.
Ah,
oui.
Très bien. J'aime beaucoup Chariots of Fire. Voilà.
Ouais, j'aime bien.
Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on vous dit à dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci, Alix.
Merci à toi, Sabrine.